Bon, qu'est-ce qu'il fout là? Il est où? Allez, viens, dépêche, on y va!
J'arrive! Je prenais juste un CD. Bon, ils arrivent quand les autres?
Ils sont en chemin, t'inquiète.
Ah, mais attends, t'écoutes quoi? C'est cool! Mais plus fort!
Hello! Désolé pour le retard.
Attends, mais c'est quoi qu'on écoute là? C'est de la merde? Vas-y, mets ça.
Merde! J'ai oublié la carte grise!
Et bienvenue dans cette 8e carte grise,
l'émission
déjà 8e, et on est obligé de le dire, la dernière de cette saison.
Pas tout à fait,
il y en aura une un peu surprise dont on vous parlera en fin d'émission, mais en tout cas c'est la dernière dans ce format-là, 21h, 22h30, une fois par mois le vendredi. Et en tout cas, on est tous plutôt contents de cette saison, hein, franchement, de ce nouveau concept.
Très content.
Carrément.
Et du coup, ce soir, on se retrouve autour de la table avec donc Mickaël, derrière le micro et derrière la console.
Salut.
Salut Mika, ça va?
Tranquille, easy.
Easy, chill. Qui on a d'autre? On a Stéphane, notre expert cinéma, qui une fois par mois devient notre expert musique.
Enfin, qui fait semblant quoi.
Notre expert comptable une fois par mois.
J'ai écouté le dernier album de Christophe Honoré, il déchire.
Génial. On a Thomas Guillaume, notre expert géographe.
Oui, tout à fait.
Du coup, qu'on retrouve tous les jeudis à 21h pour l'émission MapMonde.
Exactement, l'émission géographique et musicale de Radio Campus Paris.
Et qui ce soir va nous parler
de drame et du réveil des tropiques, qui ne sont pas des maladies vénériennes, qui sont des groupes de musique instrumentale de la France.
Super. Et on a également Jacques qui anime cette
co-anime,
émission.
Co-anime.
On fait ça ensemble. Et toi, tu nous as préparé un petit édito surprise.
Voilà, un petit édito surprise un peu en réponse au mois dernier.
Et bah super, on est parti pour cette 8e carte grise.
Carte grise, l'émission musicale tout terrain de Radio Campus Paris.
Et donc j'ai décidé en guise d'édito de vous parler des femmes dans le métal et particulièrement de leur représentation. Parce que rappelez-vous, lors de la dernière carte grise, alors que je cherchais à vous éveiller et à vous faire découvrir l'album de l'année.
Éveille-nous Jacques, on a envie d'apprendre.
Fist for Water de Mesa. Et alors que le morceau que j'avais sélectionné pour vous s'apprêtait à atteindre son acmé, un sombre margoulin s'est permis de couper pour dire « Ah mais c'est la même chose que ça !» Ça, c'était un morceau d'Evanescence. Alors, une fille dans le métal égale Evanescence. Bon, alors la blague est drôle la première fois, on va pas se le cacher. Mais c'était pas la première fois qu'on me le faisait, c'était pas la première fois qu'on le faisait à l'antenne. Et en vrai, je trouve ce genre de référence un poil problématique. Non pas parce qu'il va à l'encontre de mes goûts, quoique un petit peu quand même. Mais en soi, c'est plus triste pour vous que pour moi si vous ne percevez pas le fabuleux de la musique de Mesa. Si c'est problématique, c'est parce que, en effet, auprès du public néophyte de métal, femme dans le métal égale Evanescence, au mieux Nightwish, si le mec a fait un travail digne d'un journaliste chez Combini. Et c'est très problématique parce que ce sont deux groupes que l'on peut considérer à différentes échelles de honteux, de piètre qualité. Et donc, quel est le message que l'on renvoie lorsque l'on compare un groupe de métal avec une femme à ces groupes?
Eh bien, que Evanescence, c'est trop bien.
Non, pas
Bring
du tout.
Me to life.
Je sens que je suis dans un vivier de fans d'Evanescence, en fait.
Putain, mais vous mangez des bonbons et pas moi.
Eh bien, merci Mickaël pour cette... Eh bien, que le métal n'est pas...
Information capitale.
Donc, quel est le message qu'on renvoie aux femmes quand on parle
d'Evanescence? Quel est le message, Jacques?
Eh bien, on voit que ça n'est pas fait pour les femmes, qu'elles n'y ont pas leur place, du moins pas sur scène, et qu'elles pourront essayer autant qu'elles veulent, on les renverra toujours à ces groupes.
Mais c'est pour qu'elles fassent des tributs de band d'Evanescence, c'est vrai, Twitch.
Le concept même de tribute band, j'adore.
Bon, et quand bien même ces deux groupes seraient excellents, ça reste un peu problématique. Vous imaginez si on comparait toutes les rappeuses en France à Diams? Genre Chilla, c'est un peu la nouvelle Diams. Bon, c'est exactement ce qui se passe en fait. Bon, mais il y a beaucoup de gens qui semblent penser que, putain, les mecs, c'est chaud d'avoir aussi peu de culture et de l'ouvrir. Et je ne reproche pas aux gens de l'ouvrir sur Mesa, loin de là. Alors que des femmes dans le métal, il y en a toujours eu, et qu'elles déboîtent autant que les hommes, suivez la sainte parole de Lemmy, qui est au ciel, qui, quand il avait emmené Girls' School en tournée, qui est un groupe de hard rock composé uniquement de femmes, et qu'on lui faisait remarquer que la guitariste Kelly était bonne guitariste pour une femme, il disait « Non, elle est meilleure que toi, Tokar ». Enfin merde, Black Sabbath est quasiment considéré comme le premier groupe de métal, et ceux qui ne considèrent pas que c'est Black Sabbath considèrent que c'est Coven qui avait, quelques mois auparavant, lancé la mode avec la grande, la fabuleuse Jinx Dawson au chant. Et alors là, j'étais parti pour un petit name dropping pour vous dire, si vous voulez des femmes dans le métal, il y en a absolument partout, mais ça s'annonce un poil long.
Allez, vas-y Jacques.
T'es sûr ?
Ouais, quelques noms.
Bon, alors, vous voulez...
Prenez des notes.
Exactement. Vous êtes plutôt...
Il y a examen la semaine prochaine.
Vous êtes plutôt heavy metal. Il y a le heavy metal à Tigresse des années 80 qui défonce avec des groupes comme Shaking Street, Doro, Warlock, Girls School. Vous préférez les ambiances bikers sudistes, Nashville Pussy est là pour vous. Vous êtes plutôt death bien guttural. Il y a Ark... Ouais, non, mais Sisters of Suffocation, ça défonce. Le black, c'est votre dada. Bim, Darkned, Nocturne, Slaughter Cult, qui est une référence. Vous aimez que ça parte dans tous les sens, I Wrestle a Beer One, c'est parfait. Bon, attention, contentez-vous de la période avec la première chanteuse, après ça devient très très bof. Plutôt deathcore moderne, Ginger, c'est très bon. Vous préférez le post-hardcore, post-rock, Rollo Tomassi, c'est phénoménal. Et si vous êtes plutôt doom, alors là, mes amis, Witch Mountain, Jackstone, The Devil's Blood, Gold, Eyes of Gemini, Blood Ceremony, Sabbath Assembly, Lucifer, et Mesa. Juste Mesa.
Thank you.
C'était donc le deuxième morceau du deuxième album de Mesa, Fist for Water, qui vient de sortir. Je vous recommande Fist for Water, mais Fist, F-E-A-S-T, hein, pas F-I-S-T. Hein, okay. Et je vous recommande grandement de vous le procurer et de l'écouter.
Et c'est marrant, on dirait Evanescence. Pour ceux qui nous rejoignent, il vient de me bâcher, parce que c'était moi, je l'avoue, le mois dernier, qui avait dit qu'on dirait Evanescence, mais c'est ma non-culture du métal. Mais comme je pense que plein de gens qui écoutent du rock, ils écoutent Sum 41, ils disent « Ah, on dirait les ZZ Top », tu vois.
Non, quand même pas. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment très propre.
Le rock est tellement présent dans la culture cinématographique que les gens savent que genre les ZZ Top, c'est plus ou moins les ZZ Top et que ça
marche. Ouais,
et
je pense que c'est
quand même. Que ça marche plutôt pour des trucs genre rap ou metal ou des styles qui sont un petit peu plus.
Oui, c'est sûr. Et c'est aussi quand même très propre aux artistes féminines. Enfin, je me souviens plus.
C'est qu'en fait, c'est.
Voilà, ça ressemble un peu à Evanescence. Enfin, ça ressemble à Dead Can Dance avec des grosses guitares, mais c'est.
Ouais, alors, la rigueur, c'est une comparaison que je peux entendre. Ouais.
Et j'ai une autre chose à dire, c'est que quand je dis que je compare ça à Evanescence, je ne pense pas ça en mal.
Oui,
parce que j'aime beaucoup Evanescence.
Le problème, c'est qu'une grosse partie de la communauté qui écoute ce genre de musique pense que c'est en mal, donc.
Bah oui, j'imagine. Trêve de métal, nous ont rejoint autour de la table, j'ai dit nous ont, ah bah si, nous ont, Maxime, qui est derrière le micro, qui est à côté de Mickaël. Salut Maxime.
Hey.
Il est là pour mettre
gros
pour
efforts de participation.
Je suis en train de manger les sucres des restes de chouquette.
Les mêmes blagues.
T'as raison, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la chouquette.
Donc Maxime est là pour mettre l'ambiance. Maxime, chère Hélène, que vous pourrez retrouver une fois par mois en format court de 5 minutes. Et aussi, surtout, Nina. Salut
oui,
Nina.
Je suis venue en courant.
Nina qui est une nouvelle dans la carte grise.
Je suis en train de me demander, est-ce que tu es déjà venue ? Non ?
C'est la première fois.
Et bah, bienvenue dans la carte grise.
Tu fais quoi, Radio Campus Paris, Nina ?
Non, ça va. Pas de
matière. Fais rien.
Donc, Nina, quand même, pour les auditeurs. C'est elle qui coordonne, qui produit, qui a la chargée de production de la matinale de 19h du lundi au jeudi à 19h comme son nom l'indique.
Jusqu'à 20h.
Donc voilà, ouais. elle est au quotidien avec nous et c'est un rayon de soleil. Et donc du coup Nina, elle aime la musique aussi, elle aime écouter de la musique. C'est dingue tous les gens qui aiment écouter de la musique.
Incroyable transition Christophe.
Tu me recrutes pour la matinale ou pas ?
De ouf.
Et donc du coup elle écoute de la musique, elle va avoir des concerts et notamment elle est au concert de Batouk et elle les a rencontrés.
C'est ça, ils étaient trois à collaborer sur leur premier album. Ils ne sont plus que deux mais plus en forme que jamais. Le groupe sud-africain Batouk était en France à l'occasion de la sortie de leur deuxième album Quasi Royalty. Les Quasi, c'est le nom qu'on donne en argot au township d'Afrique du Sud. Un album qui rend donc hommage au quartier où les deux musiciens ont grandi. Avant leur concert à FGO Barbara dans le cadre du festival Magic Barbès, Nina et Mickaël de Radio Campus sont allés à leur rencontre.
Notre premier album, Musica de Terra, était un album relié au voyage. On a enregistré en Ouganda, au Mozambique, on a enregistré certaines choses à Paris, en Belgique, un peu partout, et donc le résultat était assez étranger. Alors que notre dernier album était vraiment enraciné en Afrique du Sud, il se concentre dessus et c'est un hommage à l'Afrique du Sud.
Ce deuxième album est une fière production sud-africaine. On a enregistré en Afrique du Sud, les beats ont été faits là-bas et même les artistes avec lesquels on a collaboré sont sud-africains.
Hey, I'm Mantega, the voice of the group, Batouk.
Hey, I'm Spook Matambo, I make the beats in Batouk.
Le processus de création de notre musique est très naturel. On n'a pas de méthode fixe avec des critères à cocher. C'est très très naturel. Spook et moi, on travaille vraiment bien ensemble. La plupart du temps, Spook fait un beat, je l'écoute, puis j'écris en fonction. Ou bien on a une idée, on y réfléchit tous les deux. Du genre, ah, on devrait faire un morceau qui sonne comme sous l'eau. Ensuite, il fait un beat et j'écris quelque chose de la perspective d'une sirène, par exemple. C'est comme ça qu'on a écrit le morceau Deep Ocean Deep.
On travaille beaucoup depuis chez nous, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre, partout, on fait de la musique.
Vous savez, la plupart du temps, on est dans la cuisine, en train de cuisiner, et Spook commence à rapper ou à chanter, et on finit par en faire une chanson.
Il n'y a pas de méthode pour la folie. Ça peut être n'importe quoi. L'inspiration peut venir d'une expérience, d'un film qu'on a regardé, où je peux lancer un beat, où elle peut avoir une idée, une histoire qu'elle a envie de raconter. Et j'essaie d'interpréter ça en son, mais il n'y a pas de méthode. Ça a été différent pour chaque chanson de l'album.
Pour cet album, on a demandé aux gens de collaborer avec nous. De toute façon, la plupart d'entre eux sont nos amis. Par exemple, l'un des artistes avec lequel on fait un featuring sur l'album, c'est un producteur qui travaille souvent avec Spook, DJ Big Space. Lui et Spook travaillaient tous les deux sur leur projet et j'ai entendu qu'ils étaient en train de faire un beat et je leur ai demandé s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'avoir pour Batouk? Donc oui, la création de l'album était très naturelle. On a pris notre temps parce qu'on voulait qu'il soit aussi parfait que possible.
Il y a le sampler qui permet de moduler plusieurs sons de percussion à la fois, beaucoup de programmation, de beats. J'ai aussi un percussionniste avec qui je travaille. En Afrique du Sud, la house music est une culture. Carla a grandi avec ça quand elle avait 7 ans. Moi, à l'époque, j'en avais 10, 12. Quand la house music a frappé l'Afrique du Sud comme une bombe, depuis, c'est juste la culture, c'est très naturel.
En Afrique du Sud, on écoute toutes sortes de house. Funky house, jazzy house, deep house, tech house, afro house, beaucoup de house différentes. Donc c'était presque normal pour nous de faire un album de house en ayant toutes ces différentes influences.
C'est pour ça que les morceaux de l'album sont tous très différents, qu'ils sont tous house. Et ont tous en eux l'intention de faire danser, surtout.
Dans certains de nos concerts, on est juste nous deux.
Je fais simplement les beats, j'accompagne ses paroles, parfois je prends le micro, mais la plupart du temps, je joue juste mes sons.
Parfois, on invite un percussionniste. On l'adore, c'est un excellent percussionniste, et puisqu'il est basé à Paris, autant jouer avec lui. On a tous les deux des formations visuelles. Et le monde est dans un espace visuel. Tout est sur des écrans, donc on prend en compte l'importance de tout ça. C'est tellement beau de pouvoir lier le visuel à notre musique. Si on peut créer comme une œuvre avec de la musique, et on y rajoute quelque chose de visuel qui la soutient, ça fonctionne ensemble et ça se supporte. Something visual supporting it, and it can kind of work together and drive it. I always say that, you know, it's.
Je dis toujours qu'un peintre a la liberté de peindre sur n'importe quelle matière, des matériaux, tissus sur les murs, par terre ou une toile, et peindre ce qu'il veut. Fabric, material on walls, on the floor, on carpets, on canvas, any subject. La peinture est leur médium, la musique est notre médium et on ne devrait pas se restreindre à faire une seule sorte de choses. On veut aussi utiliser différents moyens d'expression et profiter de cette liberté dans le cadre de la musique.
Je fais de la musique depuis 2001, 2002. Et à cette époque, mon idée, c'était de mélanger la musique que je faisais avec des comics et des nouvelles graphiques. J'étais influencé par des albums concept, des albums à thème. Genesis en a sorti un, The Lamb Lies Down on Broadway. Il y a aussi cet album de hip-hop, Deltron 3030. Où ils ne te montraient pas vraiment tout, mais c'était très graphique par nature. C'était un monde dans lequel tu entrais, par la musique. Donc, nous, quand on a fait notre truc, on veut aussi emmener, faire entrer les gens dans notre monde, dans notre univers. On fait ce truc dans nos concerts, on fait monter les gens sur la scène, et c'est toujours drôle parce que tu ne peux pas prévoir ce qu'ils vont faire. Mais beaucoup, beaucoup de monde, autant que possible. Si on peut avoir 100 personnes sur scène, on le fait. Si on peut en avoir 200, 300, on veut tout le monde sur scène. Mais hier soir, un mec a commencé à faire une danse super bizarre et ça m'a vraiment fait rire. Et c'était euphorisant, soulageant pour moi aussi. Ces derniers jours, des gens sont venus me dire « Votre musique, c'est pas vraiment mon genre, mais j'aime votre énergie. » Il y a des gens qui partent et qui disent « Shit, man, j'étais pas bien en arrivant et maintenant je suis super optimiste. »
En Suisse, il y avait ce vieil homme qui montait sur scène. Je pense qu'il était autiste. Il ne parlait pas, mais moi je ne savais rien de tout ça.
Et il est venu danser, et j'ai commencé à danser avec lui. Et après le concert, des gens sont venus me voir pour me dire merci d'avoir dansé avec lui. C'est un mec que tout le monde connaît dans la ville, mais certaines personnes se moquent de lui, d'autres tentent de le protéger. Et ils ont eu peur que je me comporte mal avec lui, ou que je sois bizarre. Mais au contraire, c'était tellement bien, il m'a donné une telle énergie. Et c'est tout l'intérêt de nos concerts.
Récemment, il y avait ce gros problème de famille. Une crise qui a duré des semaines et des mois. Écrire un morceau à ce sujet a été une guérison.
Spock m'a dit, tu sais quoi, tu devrais écrire et te soulager. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit. Et pour moi, c'est la plus belle chanson que j'ai jamais faite. Le morceau s'appelle Still Perfect, il est dans l'album. Je pense que dans le premier album, je peux l'admettre maintenant, j'étais remplie de peur. C'était mon premier album et je n'explorais pas ma voix autant que je le fais dans celui-là. Donc ça a été une grande transformation pour moi en tant que chanteuse, que compositrice et que performeur.
Pour moi, ça m'a permis de m'améliorer et de grandir. Pour le premier album, on a travaillé avec beaucoup de gens, mais pour Cassie et Royalty, ça a été principalement Mondega et moi. Dans la production, le mixage, c'est moi qui m'en suis occupé. Ça a été une super expérience. Je sais que je suis meilleur depuis.
Et pour finir, pour Radio Campus Paris, Batouk nous a fait le top 5 des artistes sud-africains à ne pas rater.
Moonchild
est une artiste sud-africaine. Elle est géniale, j'aime vraiment sa musique.
Shoma Josie
est aussi un artiste phénoménal. Et Airo Manielo, avec qui on a collaboré sur le premier album, est vraiment brillant.
Un illustre producteur sud-africain vient juste de mourir, DJ Spoko. Il faut vraiment l'écouter. Il a influencé beaucoup de monde. J'avais un groupe avec lui, Fantasma. Un autre, c'est le chanteur Samthing Soweto.
Very good. He used to do a lot of a cappella,
where he'd build layers and layers of music by himself. Et il a construit des couches et des couches de musique vocale qu'il fait lui-même. Ce n'est pas du beatbox, c'est fou, c'est harmonieux et mélodique.
Harmonics and melodic stuff.
He calls himself. You wouldn't even think that it's all vocal.
En l'écoutant, on dirait même pas que c'est fait vocalement. Tu ne peux pas imaginer, c'est fantastique.
He calls himself a vocal composer. So he just arranges these epic.
Il se présente comme un compositeur vocal. Il chante dans beaucoup, beaucoup de langages sud-africains, mais aussi en anglais. C'est très émotif.
Merci beaucoup.
Thank you so much.
Eh ben merci beaucoup à Mickaël et Nina pour ce reportage. Vous avez aimé vu le concert du coup après, c'est ça?
Ouais, on a vu le concert. D'ailleurs, ouais, Mickaël était là aussi. On a des avis un peu différents. Mickaël, toi, tu disais que il laissait pas assez de place à la house. C'est un peu ça que tu disais?
Pas spécialement. Mais en fait, moi, je me souviens. Enfin, de ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait vraiment une ambiance vraiment sud-africaine, genre ultra présente. Et c'est ça qui mène la danse. Et c'est ça qui fait bouger tout le monde, en fait.
Ce qui était bien, c'est qu'il y avait un percussionniste, comme on le dit dans le reportage, qui habite à Paris, en fait, qui était là sur scène. Et ils lui ont laissé beaucoup de place. Mais du coup, je trouve que, enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé que le côté house, un peu plus club, était un peu oublié dans le concert. Et à la fin, c'est ce que Maxime aussi, tu disais, parce que tu étais là aussi, C'était un peu percu, Batucada, tout le monde vient danser sur scène, ce qui était cool, mais niveau musical, un peu décevant pour moi.
T'aurais préféré que ce soit plus club et moins Batouk.
Ouais, surtout qu'au début, ils ont commencé comme ça avec des, je sais pas comment on dit, des gros sons.
De
la grosse prod derrière, ouais, c'était voilà, cool. Et en fait, c'était juste la mini première partie parce qu'ils avaient un problème technique et du coup, ils devaient nous faire passer le temps. Et voilà, et après, ça a évolué en mode plus percu et fanfare un peu. Ce que j'aime beaucoup. Bon.
Comme c'est sud-africain, ça me fait beaucoup penser à Die Antwoord.
Par contre, on dit Die Antwoord.
Ils ont fait une chanson qui juste vous explique comment prononcer leur nom, donc faut l'écouter, faut le faire bien.
Mais en vrai, c'est pas insultant de dire ça. Hein, si jamais tu me compares à ça,
c'est insultant. Moi,
en vrai, c'est un.
C'est insultant pour les Sud-Africains en fait. Die Antwoord, ouais, vraiment, c'est un groupe qui est genre apprécié énormément dans les pays genre européens et Amérique du Nord, mais en Afrique du Sud, ils se font détester.
Ouais, c'est vrai.
Et Yolande Visser, elle est victime de harcèlement de rue parce que genre les Sud-Africains la détestent. Non, vraiment, c'est un gros problème communautaire.
Parce que pourtant, ils font vraiment partie de la même scène avec Spock Matombo et tout ça. C'est vraiment. Enfin voilà, moi j'adore.
Et moi donc, aussi, j'adore. On parlait donc d'Afrique du Sud.
Je peux juste rajouter un truc,
bien sûr.
Une seconde. Là, le reportage était un peu axé sur genre les formations qu'ils ont en live, comment ils ont créé l'album. J'étais un peu déçue du fait que quand on a posé un peu des questions sur les beats, tout ça, d'où ils avaient fait leur nouvelle prod, comment c'était passé. Spock Matombo, qui est pourtant un mec qui pèse dans le game, on peut dire ça.
C'est clair.
Il savait pas trop nous répondre et il a un peu éludé le truc et du coup j'étais un peu déçue parce que.
Est-ce que ce serait comme David Guetta, en fait il fait rien?
Peut-être, non, je sais pas.
Il branche une clé USB.
C'était un peu bizarre. Il était un peu distant quoi. Enfin, il s'en battait les couilles en fait. Et la fille était trop cool, mais lui il était un peu en mode.
Ouais, mystique, il nous expliquait mystique.
Pas, ouais. Alors qu'il fait des trucs super, donc il voulait pas en parler.
Comme il a des dizaines de projets, peut-être que celui-là.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça en plus. Ouais.
Yes.
On va continuer à voyager en se tournant vers notre globe-trotteur musical le plus apprécié au sein de Radio Campus Paris.
J'espère. Hein.
Bonsoir. Je pensais que tu allais dire le plus dynamique.
Aussi.
Méga dynamique.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir Jacques.
Ça va?
Oui.
Bon, de quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir?
Je vais vous parler de la FGO Barbara.
Voilà. Ah bah encore
eh ben oui, parce que la FGO Barbara, c'est le meilleur endroit du monde.
On leur fait d'ailleurs un gros big up, c'est nos partenaires. On va faire une date d'ailleurs là-bas pour notre
pour les 20 ans, exactement.
Le 21 juin pour la fête de la musique, si ça c'est pas symbolique.
Ce sera la soirée We Will Survive avec les têtes de vainqueurs qui nous précédaient.
Exactement.
Et tout foutre en air.
Et moi?
Et toi?
Moi je suis sur toutes les émissions.
On te reconnaît bien là.
Oui. Donc,
qu'est-ce que tu as vu au FGO Barbara?
Eh ben, c'était le 29 mars dernier. C'était deux groupes qu'on appelle donc le Réveil des Tropiques, qui nous vient de Paris, et Drame, qui nous vient de Tours. Donc c'était leur release party respective, puisqu'ils ont tous les deux sorti d'excellents albums de musique instrumentale qui s'appellent donc respectivement Drame 2. C'est assez facile, et Big Bang pour le Réveil des Tropiques. Donc là, je suis allé leur poser des questions aux deux, pas en même temps, sinon ça aurait été extrêmement chaotique. Là, c'est légèrement chaotique, mais c'est moins chaotique que les deux groupes en même temps. Donc c'est pour ça qu'on va entendre des extraits d'interviews, des extraits de morceaux, parce que de toute façon, ils sont trop longs, ils font 7, 8, 9 minutes, et on n'a pas le temps de ne passer que ça, sinon on va repasser un morceau d'Evanescence. Et... Donc voilà, donc la première.
Le running gag de la soirée.
Ouais, le running gag de la saison.
Je voulais le mettre à mort, je ne l'ai fait que le vivifier.
Exactement. Donc le premier extrait d'interview, donc, c'était avec le Réveil de Troïc la veille du concert. C'était dans un bar du 11e. Et les mecs, ils sortaient de leur 9e répète. Alors quand je dis 9e répète, c'est pas 9e répète de la journée ou 9e répète du mois, c'était leur 9e répète en entier, parce qu'ils jouent jamais ensemble en fait. Ils passent leur temps à improviser et donc du coup ils étaient un peu sur les nerfs, un peu jouasse, et ils s'amusaient à faire teinter les verres dans le micro. Donc vous allez voir, il y a plein de bruit. C'est très très bien.
Magnifique.
Tu vas t'en servir directement à la radio?
Oui, mais après c'est pas très grave si c'est pas très fort ou c'est...
Hey, je te mets un low cut.
Tu veux dire peut-être la post-prod?
Tu mets un low cut.
On peut pas mettre le high cut avec aussi?
Comme ça, on est vraiment. Tu mets le high cut, c'est-à-dire. Non, on peut pas mettre. Là, si tu m'enlèves ça, je peux plus jouer de batterie, moi.
Ah, mais sinon, on fait le high cut.
Je peux faire le boom bass comme ça?
Ouais, bah. Rumble. Je te fais le rumble.
Bon, vas-y, on y va.
Vous avez enregistré combien de matériel pour cet album-là?
8, 9?
Ouais, moi beaucoup moins.
On a pas mal d'heures quand même. On a 3 jours encore, donc non-stop. En fait, tu rentres, tu plugs les micros, tu passes une demi-journée à tout installer. Chacun se fait son petit coin, t'es bien, ouais, on est bien. Puis après, on appuie sur Rack. Après, l'ingé son, on s'en va.
Il va fumer des clopes,
il va fumer, il va faire des trucs. Il va gérer un peu sa vie, quoi, c'est normal. Quand tu veux faire stop, bah tu
appuies sur stop.
Sur stop. Quand tu repars parce que t'as oublié qu'il fallait le remettre play et record, bah tu t'enregistres pas.
Mais là, le mec revient de fumer sa clope.
Là, revient, il dit ah, au fait, ça tourne pas. Ça tourne pas. Il enregistre. Bon, après, on pouvait pas trop lui demander parce que il a mixé en même temps le disque. Enfin, il ne savait pas qu'il était en train de le mixer, mais il enregistrait, mais il l'a mixé en même temps.
C'est vrai aussi.
On ment pas.
C'est pratique.
Ouais. Bah, disons qu'on a trouvé ce qu'il avait fait était mieux que ce qu'on pourrait jamais faire après. Donc, on a décidé de garder ce qu'il avait mixé en temps réel, quand il tripait un petit peu quand il était là.
C'est pour ça qu'il y a un léger décrochage au début
de la
session.
Exactement. En fait, il fait un solo sur une tranche.
Ah, genre, ah là, qu'est-ce que c'est ? Il teste les sons.
Non, il a écouté le disque.
Non,
t'as pas écouté que le début du troisième morceau.
Non, mais sur le teaser, il y a un petit décrochage. Hein, c'est peut-être ça dont tu parles.
Non, c'est au début, c'est après 2-3 minutes du premier morceau. Il y a
Une enceinte qui s'en va.
Voilà, c'est ça.
Et qui revient comme ça, de manière un peu aléatoire. On aimait beaucoup, donc on s'est dit, on le garde.
Qu'on faisait comment pour le débat ?
Et oh oh. Donc voilà, donc tout ça pour dire de donc là c'était donc le réveil de Tropique qui expliquait son mode d'enregistrement très particulier. Et quand on demande à Dram, donc de l'autre côté, c'était le lendemain, c'était une interview donc enregistrée au FG au Barbara, qui explique, vous allez voir, il y a un fond sonore un peu plus smooth, mais toujours quand même des morceaux qui passent. Et donc c'est Frédéric de Dram qui répond sur leur technique d'enregistrement eux, et je leur ai demandé si c'était exact comme Dram, donc qui improvisait tout et qui faisait n'importe quoi.
Non, non, non. Non, non, en fait, on... C'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il y a plein de façons différentes d'enregistrer, mais au final oui ça enregistre en live, et puis vu que c'est pas mal basé sur des impros, après on réédite un peu tout, on enlève des parties qui sont ratées, des trucs comme ça, et voilà. Mais après on enregistre avec les moyens de bord, c'est pas un truc qu'on met en avant particulièrement, mais après ça nécessite beaucoup de temps de mix pour que ça sonne bien, en fait.
Oui.
3-4 mois après, tu réécoutes les trucs que tu as fait, tu dis ah, en fait, c'était pas si mal que ça. On a passé pas mal de temps à réécouter les impros qu'on avait faites et se dire au bout d'un moment, bon, allez, on garde ça, et puis on essaye de les refaire. C'est pas évident de refaire des trucs dont on a oublié comment on les avait fait au départ. Enfin, peut-être que c'est facile pour des gens qui sortent du conservatoire, mais pour nous, non.
Donc voilà, ça c'était Dram qui donc travaille un peu plus ses enregistrements. Et donc pour revenir au réveil des tropiques, tout à l'heure ils ont parlé d'un morceau où il y a un décrochage d'une des deux enceintes, ils disent d'une des deux tranches d'enregistrement, et qu'ils ont gardé. Et donc du coup le morceau s'appelle Synchrotron, et je voulais vous passer l'extrait justement avant un petit bout d'interview.
Non, mais après, bon, faut être sérieux, quoi. T'as pas décidé de faire ce genre de musique pour passer à la radio, tu sais très bien que ça passera pas, en fait.
À part sur Radio Campus, quoi.
Je sais pas, ouais, enfin, voilà, il y a toujours des francs-tireurs, mais en fait, en soi, tu sais très bien que c'est pas de la musique qui peut être à un moment donné ou à un autre grand public.
On peut vous prendre un verre, s'il vous plaît ?
On fait combien de pintes, du coup ?
Deux.
On veut une en déclare et un rouge ?
Ouais.
Allez, deux. Allez,
bien.
Avant.
Bien. Ouais, vas-y.
Non, je vais mal tout à l'heure. Ouais, c'est la pire heure. Bon, bah, d'accord, alors.
Donc voilà, donc ils étaient plus intéressés par leur verre que par l'interview, mais bon, ils étaient quand même relativement sympathiques. Donc voilà, et donc à un moment donné, je pose au réveil des tropiques une petite question. Je leur dis, qu'est-ce que vous voulez poser à Dram qui passe le lendemain ? Quelle question vous voulez poser ? Donc ils ont mis environ 15 minutes avant de trouver la question. Ils n'étaient pas très intéressés par le truc, mais bon, c'est pas grave. Et ils ont dit, comment ils font pour enregistrer des albums si rapprochés ? Et donc du coup, Dram, Sandrine de Dram, qui répond comment ils font.
Nous, on est très très inspirés, faut dire.
Ouais. Ah, bah alors, il y a peut-être ça.
Bah oui.
On est balèze.
On est
bon, faut le dire.
Ouais. Non, mais peut-être qu'on a zéro pression, parce qu'il y a zéro enjeu. Donc on fait de la musique ensemble. parce qu'on s'aime et qu'on aime faire de la musique ensemble. C'est
surtout ça.
Donc, c'est, peut-être ça facilite les choses.
Et puis quand ça nous...
Peut-être qu'ils s'aiment pas.
Non, et puis quand... Et puis peut-être qu'ils s'aiment pas. Mais ils peuvent pas se saquer. Et puis on a la chance aussi de sortir nos disques chez Platinum, qui est un label, un micro-label qui est géré par un gars qui s'appelle Laurent Lafargue, qui lui est grand spécialiste de rock 60s, même
50s
et 60s. Et
oui, je t'écoute.
Non, non, mais en fait, lui, il, est, il, sort des, il fait des compiles de, son, de sa collection immense de 45 tours. Il est à fond dans son truc et... Et voilà, nous on lui donne le produit fini, l'album fini, et puis on lui dit il faut que tu payes le disque maintenant. Il fait oui, d'accord. Voilà.
Bah, des fois il comprend pas.
Alors sur le premier album, il comprenait pas. Il a dit ok, je le sors, mais je serai incapable de le défendre, je serai incapable d'en parler, vous vous débrouillez pour la promo. Et sur celui-là, il a dit ah, ouais, c'est bien, il a bien aimé celui-là.
Voilà, donc c'était Dram qui parlait de son label Platinum Records. Et donc le, pour le prochain extrait, on reste encore avec Dram puisque c'est un groupe de Tours qui m'ont dit plein de trucs sur Tours. Donc je pense que je ferai une émission spéciale Map Monde sur Tours, l'épisode 2, parce que j'ai déjà fait un épisode sur Tours. Hein. Il y a tellement de choses à raconter sur Tours, quand même, la capitale de je ne sais plus quelle région de merde. Mais voilà. Et donc, du coup, le prochain morceau, le prochain extrait commence par un morceau. Et c'est, le morceau s'appelle Patinoire mondiale de l'UNESCO. Donc, c'est mignon. Et c'est toute une explication. Et je leur ai posé la question de pourquoi ils ont des noms de morceaux comme ça. Et vous allez voir.
Des messages autant que, enfin, je veux dire, oui, ouais.
C'est... Mais je crois qu'on s'étonne autant d'inventer de la musique des fois. On écoute des trucs, on se dit waouh, on sait même plus, on sait pas d'où ça vient. Et c'est vrai qu'il y a des titres de morceaux. Moi, je serais incapable de dire d'où ça vient. Mais par contre, ça,
c'est, ça colle.
Pour nous, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est que oui, c'est. Mais compte pas sur nous pour t'en dire plus. Sur
les, mots, ouais. Les mots, c'est joli aussi, comme la musique, donc ça fait partie d'un, c'est un tout.
Et vous jouez tous des groupes, des genres de musique différents. Comme Mystérieur, c'est encore pire parce que des fois, il y avait le genre de musique changeait du tout au tout. Et comment vous avez réussi à vous retrouver autour de ce genre-là, le crotrock, pour parler plutôt les musiques, qui est quand même assez spécifique.
C'est que tu prends les choses à l'envers en fait. C'est quand tu nous mets tous ensemble, ça fait drame.
Ça fait
et c'est pas drame qui fait nous.
Ouais. D'accord,
tu vois.
Et je crois qu'on s'est jamais dit qu'on allait faire du
crotrock. Non.
D'ailleurs, moi je fais du reggae dans ce groupe.
Ouais,
par exemple.
Il y a des morceaux, lui il est persuadé que c'est du reggae, pour nous c'est du disco, tu vois.
Voilà. D'accord. Ouais. Oui, non, parce que je sais que de toute façon il faut pas parler de genre de musique à un groupe.
Si on a le droit de parler de reggae.
Vous n'avez pas forcément envie de catégoriser votre musique, mais.
Non, mais en tout cas, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est que la somme de nous, ça fait drame et pas...
Et ça aurait pu faire autre chose.
Je me force pas à faire du disco.
Et quand on fait de la musique, on se dit pas, on va faire un morceau crowd, on va faire un morceau comme ça. On fait des trucs et puis au final, ça fait ça.
Et quand c'est
ça,
pourri,
quoi.
Généralement, on se regarde tous, on dit ouais, là, ouais, c'était pourri, on est tous d'accord. Hein.
Voilà.
Donc voilà, donc c'était Dram qui finissait sa petite interview comme ça. On va revenir sur le réveil des tropiques parce que en fait quelque chose qui frappe dans cet album, c'est la pochette merveilleuse du réveil des tropiques. Donc je vous la montre. Alors, sur la webcam de Radio Campus. Donc voilà, c'est magnifique. C'est donc une femme avec une femme nue qui sort des planètes par son vagin. Et en fait, ils ont
souvent des femmes nues sur les pochettes. Voilà.
C'est ça, c'est vrai. C'est un peu le comment dire, le double standard de la musique psychédélique. Et donc du coup, on leur parle souvent de cette pochette. Et donc, du coup, voilà. Donc, comme je l'ai dit. Et je leur ai posé la question, voilà, comment ça se passe. Tout à l'heure, en fait, j'ai parlé de Rubinsteiner, mais c'est parce que dans Drame, il y a Seb Lantier, qui est donc le fondateur de Rubinsteiner. C'est pour ça que je voulais faire le rapport.
Qui était dans la fresh list, d'ailleurs. Et j'ai une petite remarque sur Drame à faire. S'il y a des gens, s'il y a des auditeurs qui adorent Radio Campus Paris, qui écoutent tout le temps, vous aurez peut-être reconnu que Drame, c'est le générique de la séance studio. Voilà, pour les... Les petites pépites de Radio Campus Paris.
C'est pas mal.
On en apprend tous les jours.
Tous les jours. Et donc, du coup, pour revenir à la pochette, on en parlait encore donc avec le réveil des tropiques sur cette fameuse pochette.
Bah, en fait, c'est surtout la pochette qui a influencé le thème du disque.
Merci, les gars.
Puisqu'on l'avait déjà 2 ans avant. On l'avait trouvé pour un autre enregistrement qui n'a jamais sorti. Donc, du coup. On a enregistré en sachant très bien ce qu'allait être la pochette. Et la conception de l'album a tourné autour de cette affiche.
Tu vois pas que tu nous fais chier, non?
Non, mais c'est vrai, c'est ça. En fait, sur le premier disque, on avait la musique, mais on n'avait pas la pochette. Et sur le deuxième, on avait la pochette, mais on n'avait pas la musique. On a mis 2 ans à faire la musique. Non, on fait des concerts. Et leur concert était
donnant.
Hyper beau.
C'est
hyper
ça, beau. C'est ça.
Ouais. Moi, je les ai vus à la Maros. Ils ont mis un peu de temps à se chauffer.
Moi, je tiens pas l'alcool.
Après, c'est l'inverse de nous un peu. Eux, ils jouent en place.
Ouais. Ils savent jouer, quoi. Nous, on fait de la musique pour rigoler.
On commence Drame ou Dramé?
Vous passez après en plus. Drame, je crois. Ils passent à 20h30 et vous passez après.
Bah non, mais le Drame, ils existent de pas très longtemps, tu vois. Nous, on est quand même la tête de fiche, quoi.
Oui, c'est vrai.
On est un super groupe.
Ouais, il y a des membres de Oiseau Tempête et Ulan Bator.
Il reste beaucoup de questions ou pas?
Non,
en vrai, j'ai fini, là.
Voilà, donc c'était extrêmement chaotique. Il y avait... Voilà, donc il y a même eu une arrestation pendant l'interview du réveil des tropiques. C'était assez drôle.
Un des membres qui s'est fait arrêter?
Non, malheureusement non. C'était plutôt une personne de couleur.
est-ce que tu as interviewé que des blancs?
Oui, évidemment, c'est de la musique instrumentale, psychédélique. Tu crois vraiment qu'il y a de la diversité dans ce milieu-là?
Bah, God's Brain, qu'est-ce que c'est?
Non, mais on parle de Paris.
Ah oui.
De Paris.
Pardon.
Ok, donc tout ça pour dire que leurs 2 albums sont sortis en 2018. Donc Drame, c'est donc Drame 2, extrêmement correct. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes disponibles à la piraterie. Et Le Réveil des Tropiques, c'est donc l'album s'appelle Big Bang. C'était très très bien en concert. C'était vraiment cool.
Les deux jouaient le même soir.
Les deux jouaient le même soir. Drame en premier, Le Réveil des Tropiques en deuxième. Drame, ils sont extrêmement calés. C'est vraiment de l'efficacité pure et dure. C'est très très bien. Et Le Réveil des Tropiques, c'est un peu plus bordélique. Ils ont une scénographie un peu étrange parce qu'ils sont habillés n'importe comment. En fait, ils ont.
Alors, est-ce qu'ils ont une scénographie étrange ou mauvais goût?
Alors, c'est un peu des deux, je pense. Mais bon, et en fait, ils ont des déguisements, mais c'est des déguisements cheap. C'est un peu comme s'ils avaient voulu imiter Sun, mais juste, ils étaient bourrés.
Sun.
Oui. Et donc voilà, donc merci à Julie de la FGO Barbara d'avoir organisé cette superbe rencontre. Merci au service presse de Radio Campus Paris.
Et on a un service presse?
Oui.
Apparemment.
Ok, super, merci Eve. Au service presse.
Ça s'appelle Eve.
Eve Giro. Ah oui.
Super, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Hein.
Ouais.
Il me semble qu'on se tourne maintenant vers monsieur Christophe Honoré de la radio, monsieur 7e art.
Ouais, on aurait.
Stéphane,
ouais,
apparemment, t'es allé quelque part hier, Stéphane.
Ouais, il paraît que je suis allé voir la première édition de Idéal Trouble. Donc, Idéal Trouble, un festival fondé, entre autres, par Étienne Blanchot. Étienne Blanchot, qui était le cofondateur de La Villette Sonic, qu'il a créé en 2006 et qu'il a quitté récemment de façon mémorable.
Oui,
Seuls les vrais le savent et ont lu la lettre. Et en fait, c'est un festival du coup qui a lieu à la station Gare des Mines, donc ce lieu merveilleux qui est au-delà
où
de la porte de Bervilliers.
On passera pour nos 20 ans.
C'est ça. Et donc, il y a un lieu qui est assez controversé parce qu'en ce moment, il y a un mec. J'ai rencontré un type hier dans le festival qui m'a dit ouais, de toute façon, la station, ça devient n'importe quoi. Enfin, voilà, bref. Et ce festival est assez incroyable puisqu'en fait, il se passe sur 4 jours, donc du 17 au 20, et il y a une programmation assez variée. On pourrait y voir Noir Boy George, on pourrait y voir plein de trucs hyper sympas, notamment Horse Soldiers qui passe demain soir, un quartet américain assez fou. Et hier, la première édition, ça a commencé par DJ de secours, un nom qui était assez rigolo. Après, c'était le duo parisien Suciamo qui a tenté un revival italo-disco assez cool et qui a fini par un concert de Boy Archer, donc un duo qui a complètement retourné la salle avec des marimbas électroniques, avec une clarinette électronique, un truc complètement fou. Et au milieu, il y a eu Moor Mother. Et Moor Mother, donc, qui est la mère des Landes en américain, qui est arrivée sur scène avec ses machines posées sur une table. Elle avait des petits trucs Moog, elle avait une table de mixage qu'elle gérait toute seule, elle avait plein de petites pédales d'effet, un microphone, et en fait elle était planquée dans un sweat à capuche noire avec juste ses dreadlocks qui dépassaient. Elle avait un côté un peu mi-sorcière, mi-incantatrice, et en fait cette fille, c'est Kamaye Ayama, donc qui est une afro-américaine née et élevée dans le Maryland, qui est venue étudier la photographie à Philadelphie et qui a très vite arrêté son cursus de photographie pour se concentrer sur la musique. Elle a commencé avec un duo qui s'appelait les Mighty Paradox. C'est un duo de punk qu'elle a intégré dès son arrivée à Philadelphie. Elle a tout de suite créé un truc qui s'appelait les Rockers Gigs, qui était une série de concerts en fait qui visait à rendre la parole et à rendre visibles les minorités. Donc en fait, elle fait partie d'une communauté. Donc déjà, les femmes, elle était très militante pour la cause LGBT. Elle est afro-américaine. Donc voilà, elle s'intéresse vraiment énormément à la minorité dans la musique, et elle devient très vite militante. En 2012, elle devient Moor Mother, c'est le lancement de son projet électronique solo. Elle a très récemment sorti deux EP, dont un qui, je vais y arriver, s'appelle Fetish Bones. C'est un album, un LP, un extended play, Fetish Bones, qui est excellent, qui a été salué par Noisy, par à peu près tout le monde, qui est vraiment incroyable. Elle a sorti Space 700 très récemment, et elle est aussi en fait très impliquée, parce qu'en fait elle se décrit comme bricoleuse de son et surtout comme poétesse. Elle travaille dans beaucoup de projets, elle fait des happenings à Philadelphie avec notamment Blank Quantum Futurism avec Rashida Phillips, qui est une militante aussi afro-américaine assez ouf. Elle se décrit comme militante, elle s'engage vraiment beaucoup, elle pose des questions assez intéressantes comme il faut pas seulement se demander ce que c'est d'être acteur de sa communauté, il faut aussi se demander ce que c'est que d'être le futur de sa communauté. Et il y a un truc assez intéressant dans sa musique. Au-delà de son militantisme, du coup, à l'heure où Donald Glover est présenté comme la personne la plus militante de l'heure, puisqu'il a sorti This is America, et This is America qui porte un peu à controverse, parce que c'est une vidéo qui à la fois se présente comme militante, mais qui à la fois est très contestée par le milieu militant. Elle, c'est quelqu'un qui, du coup, depuis 2012, est vraiment à fond dans la scène militante américaine et mondiale. Au-delà de cet aspect militant qui se ressent dans ses paroles, elle balance des punchlines sur l'oppression des minorités. Elle parle énormément d'oppression dans ses textes. Mais il y a aussi un côté très incantation. C'est Mary Franco Lao qui disait, je l'ai lu dans un article de Noisy, je n'ai pas lu tous les écrits de Mary Franco Lao, qui est une sociologue et ethnomusicologue italienne, qui dit que la musique sorcière, c'est une musique en fait qui est toujours décrite comme la musique de signes féminins systématiquement exclue, persécutée, exterminée, et dont il ne nous est parvenu que quelques restes. Alors ça colle extrêmement bien à la personne de Moor Mother, ça colle extrêmement bien à son histoire, ça colle extrêmement bien à ses luttes, et c'est vraiment ce à quoi on pense en fait quand on regarde un set de Moor Mother, parce que quand on regarde ces espèces de sons bidouillés, ces immenses réverbes, ces sons qui sont des espèces d'infrabasses, des percussions qui sont complètement hachées, des rythmes en 7-8, des signatures bizarres qui reprennent sur des trucs complètement désaxés, des rythmes qui se basent sur l'infrabasse pour ensuite partir dans des vrilles complètes. Elle a fini son set par une chanson de reggae absolument incroyable pour adoucir les esprits. C'est vraiment hypnotique. Le son est extrêmement travaillé, elle expérimente énormément, elle on a l'impression, j'ai pas eu la chance de connaître la programmation de son set, mais on a l'impression que vraiment qu'elle le bidouille au fur et à mesure, qu'elle construit son truc, qu'elle reprend des instrus qu'elle a joué dans ses albums, mais aussi qu'elle les travaille. En fait, elle fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle est énormément comparée à Sun Ra. Je ne sais pas si vous connaissez ce jazzman des années 60 de Philadelphie qui disait, en plus c'est drôle parce qu'ils viennent de la même ville, mais qui disait lui en fait venir de Saturne et il prenait ce parti pris un peu fou de dire que voilà, il descendait de Saturne pour libérer les Noirs de leur oppression et pour, voilà, pour défendre en fait un peu le Black Lives Matter, bon, qui arrivait plus tard, mais voilà. Et en fait il y a tout un musique militantisme, on peut penser à Tricky, on peut penser à Lee Scratch Perry, on peut penser à Coltrane, à tous ces gens-là, mais il y a vraiment une filiation avec Sun Ra qui est assez évident, je pense même qu'elle l'assume hein, dans ses interviews et dans tout ce qu'elle véhicule, c'est qu'en fait il y a vraiment ce délire mystique. Sun Ra, on parlait d'un espèce de prophète, elle on parle vraiment d'une sorcière, mais sorcière, il faut pas vraiment lui plaquer cet aspect négatif auquel on pourrait penser aux sorcières de Salem par exemple, ce genre de délire un peu chelou.
Les sorcières de Salem sont des personnalités très positives.
C'est vraiment la sorcière comme la prophète d'une exclusion, comme vraiment ce besoin d'exprimer l'enfer vécu et ce besoin de rallier une communauté à quelque chose de très puissant. Et la musique ne ment pas, sa musique ne ment absolument pas, on ressent ça au plus haut point, on est vraiment transpercé par le son qu'elle livre et sa performance est vraiment incroyable. De cette espèce d'apparence voûtée au début, elle dégage une énergie absolument incroyable et je propose qu'on écoute tout de suite un son de Moor Mother qui, Michael, rafraîchis-moi la mémoire, s'appelle je crois In the Light, quelque chose comme ça.
By the Light.
By the Light, voilà.
Hey. And we're gonna lie, and we're gonna lie, and we're gonna lie. And we're gonna lie, and we're gonna lie, and we're gonna lie, and we're gonna lie.
Si.
And we're gonna lie, and we're gonna lie, and we're gonna lie, and we're gonna lie, and we're gonna lie. I came into this world, I had crack in me. In some blood on me, in some lead in me. Death creaking, mama speaking, get your hands off me. And get these chains off me.
Get off me.
Came in the world out the pussy, mama pushing. 5 seconds on the earth, block 50. From all this action, he's dealing with the slasher. Wanna be the master, benefactor. When you don't came on, back off the planet. Damn, they can't stay there. Staying in my eye, roll the balls with my ancestors. Death the time, tongue hit my spine, keep my breathing in line. Back on the plane, I stay slanted, mobbing like three wishes granted. Still the black women ain't shit to you. I bought shit, most of them know cause they horse shit. Big donkey dick, I don't miss shit. My shit sit like milk and pigs. His breastfeeding in public while me mugging. I don't care either, I don't like Rita. Spit down the back like Frida. The whip be like that. No filigree, hang that southern trees and bell hooks, train as a sniper. Said your man returned from the game with a hatchet. River blue, none of y'all can match it.
I'm
with the light, I'm with the light, I'm with the
Eh bien, merci Stéphane pour cette découverte.
De rien, foncez.
Ça s'appelle comment, rappelle-nous ?
Alors, ça s'appelle Moor Mother, donc la mère des Landes, et son prénom, c'est Kamaye Ayama. Et c'est tout aussi intéressant de suivre son pseudo que son nom, parce qu'en fait sous son nom elle est également dans plein d'autres projets dans lesquels elle est poétesse, et en fait ça lie à énormément d'autres militantes afro-américaines ou juste d'autres militantes féministes qui sont vraiment hyper impliquées dans la scène musicale. Et vraiment son projet est assez ouf, elle bosse avec des groupes de jazz et là c'est vraiment un projet beaucoup plus dark, qui, tu l'as très dit tout à l'heure hors antenne Jacques, qui fait penser un peu à Scarlord de très très loin, genre pour le côté un peu, tu vois, mystique dans l'univers visuel.
Ouais.
Donc c'est assez intéressant de lier tout ça à ce qui se passe sur la scène mainstream aussi, parce que c'est vraiment une personne extrêmement influente, et genre il y a moyen que ce soit peut-être une Angela Davis d'ici 10 ou 15 ans quoi. Elle est vraiment très 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 impressionnante et très charismatique.
En vrai je trouve ça finalement plus proche de Death Grips que de
plutôt.
Mais en tout cas merci pour la découverte. Je sais pas, Christophe.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné envie d'en. Le morceau est aussi court ou il est pas
le morceau très... Et le morceau dure 2 minutes 10, il est très très court.
Très très court. Bah moi ça m'a fait penser, déjà dans ta description, ça m'a fait penser un peu à un personnage type Fever Ray. Ouais, le côté aussi fait, ouais, sorcière. Après, avec un côté beaucoup plus expérimental là, dans ce qu'on a écouté, plutôt que Fever Ray, qui est quand même un peu policé.
Peut-être un tout petit peu plus militant que Fever Ray aussi, j'imagine.
Ah, Fever Ray, elle a passé le cap.
Hyper
hein.
militante,
ah,
d'accord.
Ouais, elle connais très mal. Un bon cap de militantisme.
Ok, très bien.
Mais
sur le dernier album où elle a embrassé son homosexualité, donc du coup, la moitié des morceaux de Fever Ray, c'était vraiment sur.
Ok.
Ouais, elle a fait intervenir aussi des gens comme Tami Tamaki, qui est hyper.
Ah oui, d'accord. Ouais, donc. Voilà. Ça, je savais pas du tout.
Bien. Mais en moins expérimental, ça reste quand même assez pop, Fever Ray. Mais du coup, ça m'a donné très envie de me plonger là-dedans. Merci pour cette découverte.
Foncez, c'est trop bien.
Et toi, Thomas, qu'en as-tu pensé ?
Moi, je trouvais ça un peu court. Donc j'attends le remix disco. Mais non.
Moi, c'est le remix Afro-Trap. Hein. Chacun sait.
Oh là là.
Et t'as fait une émission sur Philadelphie ou pas ?
J'ai fait une émission sur Philadelphie et je n'ai absolument pas mis ni Mourmother ni Sunra. Donc c'est pour ça que j'espère qu'un jour il y aura un deuxième épisode sur Philadelphie. Ville prolifique. Vrai. Ville très prolifique.
Et comme Houston aussi, parce qu'on attend toujours l'épisode. Hein.
Ah bah oui, mais c'est parce qu'en fait j'ai décidé de le faire en dernier. Donc pendant la saison 17 de MapMonde.
Là, il prépare l'épisode sur Walla Walla.
Le spécial Houston sera que la même chanson de Whitney Houston à la suite.
Oh là là. Alors, c'est le moment d'enchaîner, non ?
Oui, voilà. Et avant d'enchaîner, je dois revenir sur une petite bourde que j'ai faite. J'ai dit qu'on serait à la station pour nos 20 ans, ce qui est faux.
Et on a reçu beaucoup d'appels d'auditeurs, d'ailleurs, qui nous ont signalé, qui ont regardé le programme. Ils ont dit, mais on ne comprend pas.
C'est bizarre, ça.
Et du coup, ils gagnent une montre RTL.
Je me suis fourvoyé parce qu'on y est déjà allé plusieurs fois. Hein. La dernière en date, c'était beaucoup. Le Baltiki. L'été dernier. C'était très, très chouette, même si je n'y étais pas.
On en a fait d'autres.
Pourquoi on revient pas à la station ?
On avait fait le bal.
Non, pas dans ce débat, s'il vous plaît.
Merci.
Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait deux ou trois. C'était toujours des très bonnes soirées à la station. On a toujours été très bien accueillis.
C'était la station ou le Zénith, et du coup, on a dû choisir. C'est le Zénith cette année. Voilà. C'est ça qui
alors,
se passe.
C'est le Stade de France.
Excusez-moi, j'étais perdu. Zénith.
On a peut-être pas cumulé les erreurs.
Mm-hmm. Il nous reste presque une demi-heure tout juste, et c'est le moment de passer à notre grand débat.
Yes.
De la carte grise.
Jingle débat. Vas-y Stéphane.
Jingle débat.
C'est le débat. Alors pour rappel, le mois dernier, on a parlé de ces petits plaisirs coupables qu'on avait tous. Hein. On se souvient tous de Stéphane qui nous parlait avec la lumière dans les yeux de Pentatonix.
C'est vrai,
je l'ai encore. Bon,
Christophe qui nous avouait son amour pour One Direction.
Je suis un peu déçu de ne pas avoir été là parce que je vous aurais parlé de pop coréenne jusqu'à vomir.
Mais c'est pas un plaisir coupable, c'est juste magnifique. Ah,
c'est loin d'être coupable la pop coréenne.
C'est génial.
Indé.
Ouais, c'est. Et donc ce soir, on a décidé de parler de ces artistes. Bah, on a un peu honte d'avouer qu'on les aime pas, quoi. C'est un peu leur chouma de dire qu'on les aime pas parce qu'ils sont considérés comme cultes. Donc on va faire un petit...
C'était culte le truc. Ah, moi je pensais trendy. Trendy,
quoi.
Ici à Radio Campus Paris, on est un peu anti-trendy, tu vois. Donc,
Non, ça va peut-être pas marcher. J'ai peut-être download un nouveau titre.
Alors, genre, si tu dis moi j'aime pas Christine and the Queen, en fait, ça va, tu vois.
C'est Chris. Personne ne l'aime.
Déjà, de maintenant, elle s'appelle Chris.
Non, c'est barré, ça va. On sait pas officiel, il n'y a pas eu de communiqué de presse.
Ouais.
Ça reste Christine and the Queen.
Ok.
Mais du coup, je propose qu'on commence par toi, Stéphane. Quel est l'artiste que t'as un peu honte de ne pas aimer ?
Moi, je pensais pas à du coup un immense classique.
Il n'a pas compris l'énoncé.
Je pensais pas à un truc où c'était on pouvait pas tracher, je sais pas, Jacques Brel ou un truc comme ça. Moi, je pensais à un artiste qui est très très en vogue maintenant et qu'on peut absolument pas attaquer parce qu'ils ont vécu une histoire absolument triste. C'est Her. Le groupe où il y a un mec qui est mort je crois que c'était des frères, en tout cas de très bons amis. Et du coup il y en a un qui est mort au tout début de la carrière du groupe et du coup ils ont bénéficié en même temps que leur popularité d'une espèce de vague d'empathie absolument incroyable. Alors moi je vais dire en espèce de mauvaise langue qu'ils ont surfé sur la mort de comme Indochine, ils ont surfé sur la mort du mec pour faire
comme Diane Vaude.
Personne n'est mort.
Ah bon, il y a eu un mort dans Diane.
Qui est mort ?
Oui, la personne de petite taille qui était atteinte d'une maladie dégénérative.
Ah, mais c'était après leur succès aussi.
Ouais, mais
il faisait pas partie du groupe.
Il
moi, j'ai vu son contrat de travail.
Clip.
Il était vraiment groupe. J'ai appelé la CGT Afrique du Sud et ils m'ont dit, il fait partie du groupe.
On a eu le syndicaliste qui a.
Mais stop les copains.
C'était lui le cerveau. Donc en fait, donc non, pas du tout. Ils ont juste une popularité assez incroyable. Her, ils ont un feat avec Romeo Elvis. Ils ont des salles pleines. Ils ont fait une apparition dans l'émission Colors, dans laquelle a fait aussi une apparition L'Homme Pâle, Mac DeMarco, des artistes absolument incroyables. Et aussi Edith Préto, mais ça on n'en parlera pas.
Ça sonne anglais, mais c'est français.
Ça sonne anglais,
Deezer.
Mais c'est français comme Deezer. Ils sont comparés à 4. Enfin, bref, c'est un groupe qui bénéficie d'une popularité assez incroyable. Et en vrai, quand les gens parlent de Her et disent qu'ils aiment tous bien, je me suis jamais confronté à quelqu'un pour lui dire à quel point je détestais ce groupe et à quel point j'avais une aversion juste absolument. Absolument épidermique à chaque fois que j'entends la voix du mec qui fait All I need. Juste envie d'arrêter tout et de sauter d'une fenêtre. Et voilà, je vous laisse peut-être découvrir ce merveilleux son qui, moi, mérisse les poils. Avec une belle.
Non, mais il n'y a pas de.
Pas une seule femme ne peut représenter la femme. Pour la dire toute, il faudrait toutes les femmes.
All I need is 5 minutes, if you can see the signs. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. Start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We couldn't get away.
Bah alors, vos avis respectifs.
Alors,
Thomas,
moi, déjà, mon avis, c'est quand même que il n'a pas compris l'énoncé.
Parce que, genre. Il y a moyen que j'ai pas compris l'énoncé.
Parce que voilà, l'énoncé, c'était quand même traché un truc un peu culte où vraiment tout le monde te dit oh. Mais là, si par exemple tu dis ça à ta mère, elle va pas te dire oh, t'aimes pas ça, mon fils.
Ah, mais moi, je pensais genre le
t'aimes
truc de
heure,
le débat
la pub
soci...
pour la voiture là.
Non, mais je pensais genre que c'était des intouchables, tu vois. Et eux, ça m'a l'air. Enfin, quand les gens t'en parlent, enfin, en moyenne, quand tu vas dans une soirée et que tu parles de Her, les gens sont là genre ouais, mais c'est le nouveau truc, genre hyper cool. Et genre en plus, ils sont militants, et en plus, ils parlent de féminisme, en plus, c'est trop stylé. Donc j'ai un peu compris l'énoncé à des os de faire mon
rebelle. Non, mais c'est
genre,
vrai que t'es trop indé, Stéphane.
Genre, mais
des os, pas des os.
Enfin, mais tu vois, genre,
moi, je vois pas de militantisme. Bah, en fait, l'intro de plein de mecs qui parlent de meufs.
L'intro de leur truc, c'était genre en mode l'image de la femme, en mode, tu vois, genre on respecte la femme.
Dans ce cas-là, Faux, c'était nu debout.
Mais Faux, c'était nu debout.
Tu vois,
c'est un peu du même genre, si t'aimes pas Faux, dans un certain groupe de gens, bah c'est pas possible, tu vois. Ouais. Donc, moi j'ai compris les
non mais après c'est vrai que
non c'est le contraire, Fauve s'est passé en plaisir coupable maintenant.
Ouais, peut,
ouais,
bah,
ouais.
Quand
comme quoi on peut vite passer d'une catégorie à l'autre.
Et c'était l'intérêt de ma chronique, en fait. C'était de dire voilà ça.
Ma chronique.
Ouais. De mon intervention. Bref.
Autre plaisir coupable.
Bah non, justement.
Bah non, pas
autre, non, autre coupable.
Ah, tu vois, t'as pas compris non plus l'énoncé, alors fais pas genre. Hein.
Vas-y,
fais
là.
Fais pas le mec qui a fait Polytechnique, là.
Autre baston.
Répulsion coupable. On va appeler ça la chronique des répulsions coupables.
Hop, hop, hop.
Répulsion coupable.
Ouais.
Bah, moi, du coup, c'est un truc que tous mes potes adorent, c'est les Strokes. Et.
Oh. Ah, ça, c'est ça, tu vois.
Les Strokes, je m'en bats les couilles. Dans ma tête, les Strokes, c'est de la musique d'ascenseur. Enfin, la musique d'ascenseur, c'est le deuxième non-plaisir coupable que j'ai préparé. Mais les Strokes, je sais, j'ai même pas envie d'en parler, j'ai pas envie que vous fredonniez ça non plus. C'est...
J'ai rien fait, moi, me regarde pas comme ça.
Allez, hein.
Qui a fredonné Thomas? Oui. Non, en tout cas, ça me fait ni chaud ni froid, ça me fait chier. Et pourtant, j'aime bien d'autres groupes du même style, même si je saurais pas définir le style exactement.
Genre, comme Nas,
les Chambres Brunes,
les Plasticines, en fait. Je rigole.
Moi, j'adore les
Plasticines.
Tu n'es qu'un loup.
Et voilà, c'est tout. Zer. J'ai pas plus de contenu. Mickaël, t'as trouvé le petit son? On peut écouter les Strokes, ça vous fera peut-être plaisir,
ouais.
Mais pas moi.
Un petit bout de Strokes.
Others are quiet and I'm tired.
Bah du coup on est donc là ça,
ça marchait bien, on a tous fait
exactement, on a tous fait
bah, c'est ça, c'est
même plus... si c'est très mal de faire parce que tout le monde a le droit d'avoir chacun ses goûts,
exactement, hein. C'est bien que vous me respectiez.
Chacun sa route, chacun son chemin.
Le mec fait ça parce qu'il prépare et parce qu'il sait que son truc va faire plus de que tous les exactement, précédents.
Ouais. Bah non mais c'est vrai, il n'y a rien de pire. Franchement, je trouve ça insupportable, les gens qui font quoi, ou qui font genre soit ah, t'aimes pas ça, ou genre tu connais pas.
Ouais, le tu connais pas.
Alors, le tu connais pas, je suis d'accord.
Le tu connais pas, tu le pratiques, Jacques.
Hein,
tu le pratiques.
Ouais, mais je le pratique pour des artistes qui ont vendu 35 millions d'albums.
Et alors, on s'en fout.
Et alors Et en plus, c'est faux, tu nous dis ça pour des... Ah, il y a Maxime qui semble avoir un avis.
Tu connais pas
Jacques,
les Beatles.
C'est le pire mec de la Terre pour faire ça. Genre, n'importe qui, il passe son temps à dire...
Quoi ?
Tu connais pas ce groupe de métal qui a 100 likes ? Je comprends pas, ils font des tournées mondiales.
La dernière fois que je t'ai fait ça, c'était pour Megadeth, Christophe. Megadeth, qui est le deuxième groupe le plus important du Big Four, qui a vendu 40 millions d'albums.
Je revendique que chacun doit avoir sa culture.
Megadeth, on parle du groupe Sri Lankais qui a fait 3 reprises de Nirvana en tamoul. Enfin,
Alors non, ça c'est Genocide Shrine, qui est en effet un groupe tamoul qui fait partie de la guérilla, et là je ne vous en voudrais pas.
Tu connais pas ?
Alors là, non, justement, je ne vous en voudrais pas de ne pas connaître, parce que c'est quand même assez plus, mais c'est vachement bien. Genocide Shrine, ça respire la violence.
Si on avait fait une prochaine carte grise, je pense que le thème aurait été le tu connais pas, et là chacun aurait sorti une petite pépite de genre oh mon dieu, tout le monde devrait connaître.
Ouais.
Voilà.
Beatles.
Jacques, c'est ton tour de passer sur le grill.
Ouais. Bah alors moi c'est vraiment un artiste. En fait, je reconnais le génie. Je comprends ce que les gens y trouvent.
Ah, Vianney.
Non, moi ça m'ennuie à un point qui dépasse l'entendement. Enfin, ça m'emmerde. Et alors quand il est mort il y a 2 ans, j'en avais rien à carrer parce que
Johnny.
Vraiment, je ne. Enfin, c'est pas que je supporte pas. Tu peux me mettre ça, mais ça m'ennuie à un point.
J'espère que c'est pas Eddie Mitchell parce que
c'est Prince.
Mais non, parce que Eddie Mitchell est toujours en vie. C'est David Bowie.
Ah, c'est David Bowie.
Je ne supporte pas. Enfin, c'est pas que je supporte pas.
Ah, si, ça fait un. Ça, j'avoue.
Ça,
tout le monde fait un.
Ça m'emmerde. C'est David Bowie m'emmerde à un point qui dépasse
l'entendement. Mais tout.
Non, j'aime bien Starman. J'aime bien Starman.
Et c'est, bah, c'est la seule que j'aime pas.
Ouais. Quoi?
Et j'aime
double.
J'aime beaucoup David Bowie quand il est repris en portugais dans La Vie Aquatique, ou quand il est repris par Nirvana en Unplugged sur MTV. Mais sinon, bon, désolé. Et désolé papa, désolé mon meilleur ami.
Elle
David
lave tes
Bowie,
shorts tout seul comme Nick Cave.
Eh ben, écoutons. Waouh, ça a fait hurler les foules.
Alors moi je m'inscris en faux parce que c'est le pire morceau toute la carrière de David Bowie, qui a une carrière pléthorique avec plein d'albums
quoi,
très différents.
Rogers, hein.
J'ai un peu été de mauvaise foi et je savais que ce morceau justement ne fait pas l'unanimité.
En vrai c'est un très beau morceau.
C'est un peu comme être l'épisode de Joséphine dans Ce Gardien où elle part dans le futur et qui est vraiment mauvais alors que tout le reste de la série est exceptionnel.
Non mais what ?
Je ne suis pas d'accord, l'épisode de Joséphine dans Ce Gardien dans le futur est excellent.
C'est le meilleur épisode.
Maxime ?
Moi je pense vraiment que Jacques, t'as un petit problème.
T'es homophobe.
Mais c'est pas un problème personnel.
Le mec
c'est
est totalement partiel.
Je pense
pas David Bowie,
je pense que tu connais
fou,
vraiment
en fait.
Pas David Bowie.
Ah non, si, je t'assure. Mon meilleur ami avec qui j'ai fait de la musique pendant 7 ans est un fan, mais
okay,
inconditionnel de David Bowie.
Dis-moi les albums que t'aimes pas. dans les styles en fait.
Ah non, mais à côté de ça, je me suis pas amusé à retenir les. Voilà. Non mais.
Bouh.
Non mais.
Non, okay,
mais
alors, je pense que manque de travail.
Si t'aimes pas le black metal, je vais pas te demander de citer les albums de black metal que t'aimes pas. Tu vois.
Non, non, c'est en possible. Fait, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui n'aimait pas Queen, donc voilà, c'est possible.
Ah oui, c'est moi, c'est non.
Qui aime pas Queen?
J'ai déjà rencontré quelqu'un qui n'aimait pas Queen.
Bah c'est moi.
Il y a plein de gens qui aiment pas Queen.
C'est pas vrai.
Ouais, si j'aime pas Queen.
Ah putain, cette transition. Oh là là.
Est-ce qu'on peut enlever cette vitre?
Ça brise le cœur.
Du coup, Maxime, présente-toi, fais ton truc, hein. Hello.
Bah non, mais non, parce que j'ai pas prévu de son, c'est un peu improvisé comme ça. Ah oui.
Mais oui, non, en effet, j'ai pas retenu tous les noms des albums de David Bowie.
Non, mais c'est juste pour dire que c'était tellement des albums qui incarnaient quelque chose de différent à chaque fois. On changeait presque de groupe, tu vois, c'est un mec qui a tellement été dans l'avant-garde de plein de choses.
Non, mais là, je suis totalement d'accord, c'est pour ça que je dis que je respecte l'artiste et que je comprends ce que les gens y trouvent. Okay. Mais que. Quoi que j'écoute de David Bowie, moi je m'en.
Mais oui, c'est ça, mais je comprends ce qu'il veut dire Maxime, c'est-à-dire qu'il y a une telle richesse et de diversité dans tout ce qu'il propose, c'est un peu genre comme si t'avais un buffet.
Déjà qu'il a déjà
rêvé comme si tu disais, j'aime pas le cinéma.
Mais c'est pour. C'est pour ça que je tracherai jamais David musique. Bowie.
Mais il y a des gens qui aiment pas le cinéma, réveillez-vous les gars.
Je tracherai jamais David Bowie.
Le mec qui nous parle de peur dans une émission qui est censée être ouverte à tous.
T'as plus le droit de parler.
Il y a personne qui n'aime pas Queen, c'est toi qui vas mourir là.
Ah non, je pensais qu'on disait les Gwyn.
Donc on enchaîne directement sur le. Alors c'était quoi l'expression que tu avais utilisée pour définir le faux plaisir coupable inversé?
La répulsion coupable.
La répulsion coupable de Maxime.
Bah, j'ai pas de son, mais c'est Queen de ouf. Enfin, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions. Mais je sais, je prends comme toi.
Mon mec aime les chorales et aime pas Queen.
Et ça me fatigue. Bah, justement, on est dans la chorale et en fait, on est dans un cliché de truc. Mais en fait, on en a déjà discuté avec Stéphane.
C'est au-delà de la chorale, c'est un truc un peu opérette, quoi.
Ouais,
mais alors, quels albums de Queen tu n'aimes pas tout de
suite? Non, mais puis en plus, il y en a plein qui ont pas ce côté-là trop, quoi.
Oui, en fait, je pense que Queen, contrairement à David Bowie, il y a un truc qui. Il y a un univers genre vraiment genre
oui, très
qui
marqué,
est le même, très marqué.
Mais alors, mais tu connais absolument pas Queen, t'as genre pas du tout écouté les albums, écoute jazz, écoute News of the World. Non mais alors, mais
tu viens,
c'est pas possible.
Je m'entends pas, Stéphane, écoute-moi.
Je t'écoute.
Tu te souviens qu'on en a déjà parlé une fois et que tu m'as fait écouter un morceau que j'ai aimé de Queen?
Mais dire ça de David Bowie et dire ce que tu viens de dire de Queen, c'est juste absolument inconcevable. Tu viens de faire exactement un reproche à Jacques que tu fais à Queen, alors que Queen c'est exactement le même principe que David Bowie.
Alors là,
Queen,
je suis pas du tout d'accord parce que ce qu'il disait Maxime, c'est que David Bowie avait été passé par plein de styles. Du coup, c'est compliqué quand même parce qu'il a quand même exploité pas mal de trucs. Alors que Queen a quand même une genre, c'est la guitare, elle est reconnaissable entre mille, la voix et les traitements des voix reconnaissables entre mille.
Les gars, et genre, écoutez les albums de Queen, écoutez les albums de fond en comble.
Je suis d'accord avec Stéphane.
Écoutez de fond en comble les albums de Queen et rendez-vous compte que ça, c'est les images, les chèques qu'on vous donne des best-of de Queen, le 3 Greatest Hits.
Non, mais les images,
mais oui, mais les best-of, c'est les best-of les plus écoutés.
Genre, les gars, écoutez les albums de Queen et rendez-vous compte que le traitement de la guitare est complètement différent, que la spatialisation est ouf. Genre, je suis désolé.
Non, mais bien sûr que.
Personne n'a même vivant dans un des albums de
Stéphane, ce n'est pas une radio, ce n'est pas possible.
Stéphane, ce n'est pas du tout ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est le même album x10. Ce que j'ai dit, c'est
ouais, moi je dis qu'il n'y a pas d'expérimentation et que les sons sont reconnaissables et qu'ils
sont
dans un
j'ai pas dit.
Tu as dit que Queen c'était de la soupe.
Pas du tout. J'ai dit que franchement, ils ont quand même, que David Bowie, il est passé quand même par des phases beaucoup plus extrêmes. Si tu prends le truc le plus extrême de David Bowie, enfin si tu prends les deux par rapport à Queen, c'est quand même plus resserré, mais ça n'empêche pas qu'ils ont fait des trucs, je sais pas, genre même les Pink Floyd, ils sont reconnaissables et ça reste un groupe expérimental, tu vois. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est juste que genre David Bowie, il a plus ce côté un peu buffet à volonté où en fait tu pioches des trucs, quoi.
Agree to disagree.
Et donc du coup, c'est pour ça que tu peux plus peut-être plus y trouver ton compte.
Ouais, je me referai la discographie complète.
Même la voix, en
si
vrai, moi j'adore la voix de David Bowie, mais elle est quand même beaucoup plus passe-partout, entre guillemets, que la voix de Freddie Mercury, qui est quand même. Genre, si t'aimes pas la voix de Freddie Mercury, bon bah tant pis, rentre chez toi, quoi. Genre,
c'est vrai que Queen, si t'aimes pas la voix de Freddie Mercury, t'es mal parti.
Alors que si
t'aimes
pas la voix de David Bowie, en vrai, tu t'en accommodes, quoi. Genre, t'as d'autres choses à aller chercher dans sa musique. Elle prend pas le pas, surtout.
Elle est quand même très reconnaissable, la voix de David Bowie.
C'est dur d'avoir une aversion pour sa voix, tu vois. Je comprends qu'on puisse avoir une aversion pour la voix de Freddie Mercury quand même.
Bah, moi j'en ai eu longtemps pour la voix de David Bowie pour le coup.
Je suis plutôt d'accord avec ça.
Ok, d'autres, des contre. Et alors, on va faire un vote.
Moi j'aime bien David Bowie. Ma maman aime bien David Bowie.
Super, donc l'animateur le plus dynamique vient de parler. Alors on va enchaîner. Qui a un autre plaisir coupable qui se fasse connaître?
L'animateur le plus dynamique.
Oui, moi j'en ai un. Et en plus, t'en parlais tout à l'heure. c'est pas un plaisir coupable, c'est un groupe de merde, mais que j'ai du mal à dire que c'est un groupe de merde parce que les gens l'adorent, c'est Pink Floyd.
Ah, donc voilà. Pardon, j'ai
voilà,
hésité.
Pink Floyd. Et donc, du yes. coup, et surtout son classique indémodable du patchouli sous les bras, c'est-à-dire Dark Side of the Moon, qui est quand même une
pourquoi
bouse.
Le patchouli sous les bras,
j'ai pas compris.
C'est un titre de non, réveil des tropiques.
Parce que ça sent le patchouli
tout ça
là.
Parce que c'est un truc de hippie.
C'est un truc de hippie, voilà.
Et donc, comme Kenny Arcana.
Exactement.
Comme le rap qui s'en est bien.
Non, Kenny Arcana, c'est un truc de zadiste.
Pink Floyd, c'est un truc de diable français.
Et donc, du coup, moi, ce que j'aime chez Pink Floyd, c'est que c'est quand il y a Syd Barrett au tout début et que.
C'est original.
Voilà, que c'est original. Après, il s'en va, machin, bidule. Et donc, en 74, c'est un peu un super groupe, super casse-couille, avec des gros cons, plein d'égo, et qui sont imbitables. Et en plus, même sur cet album, l'ingé son, c'est Alan Parsons. Donc, c'est quand même un autre gros con.
Pourquoi c'est des gros cons
parce que pour moi, en fait, en popularisant la musique progressive, t'as Pink Floyd.
Dis papa, pourquoi c'est des gros cons?
Alors voilà.
Je suis la stupide de l'émission, merci.
Moi, je pense que Pink Floyd est responsable de l'apparition de toute une flopée de groupes de rock progressif de bas étage, donc les Genesis, les machins, les trucs, c'est dégueulasse.
Dream Theater, c'est de la faute de Pink Floyd.
Dream Theater, c'est la faute de Pink Floyd.
Il faut brûler Pink Floyd.
Voilà, et donc. Et voilà, et en fait, c'est une époque dégueulasse où les mecs ils gobaient des acides sur des chansons de 28 minutes avec des nappes de synthé ignobles et des samples dégueulasses.
Et à notre époque, on gobe aussi des acides.
Mais oui, mais voilà, non, mais vous.
J'ai jamais entendu quelqu'un tracher aussi bien Pink Floyd.
Mais voilà,
c'est
magnifique.
Mais non, mais c'est parce que ça vient d'un texte que j'ai écrit quand j'étais adolescent, et donc du coup, je me suis dit, je vais le ressortir. Et
moi, c'était sur ton blog, ouais.
C'était sur mon
mapmonde.skyrock.com.
C'était sur mon Skyblog.
Skyblog, t'as Guillaume 30 ans après Pink Floyd. L'imposture. Retrouvez-le sur sa page Skyblog.
Moi, j'ai une théorie en fait.
J'ai un pamphlet pour Queen que j'ai rédigé.
On va peut-être écouter un extrait ou attends,
l'extrait c'est attends deux minutes. Je fais parce que j'ai plein de trucs à dire. L'extrait c'est donc cet immondice qui est Monet qui commence avec des sons de caisses enregistreuses pour faire expérimental, tu vois, comme dans Time, tu vois, où il y a des trucs machin bidule avec la même structure répétée mille fois, et le chant de Gilmour, enfin le chant parce qu'il chante pas très bien. Et par dessus t'as l'espèce de bouillie dégueulasse à la guitare là du boucher Gilmour, c'est un peu comme une espèce de bolognaise surgelée, et à la fin ça ressemble à rien, je veux dire, c'est dégueulasse. Et à chaque fois que je rencontre un fan de Pink Floyd, il a l'air trop gentil, alors je peux pas lui dire. Mais c'est exactement ce que je pense.
Il t'écoute ce soir, j'espère. Il pleure. C'est chiant, hein.
C'est super. Et pourtant, tout le monde dit que c'est expérimental. Quoi,
maintenant que tu le dis, ouais. C'est... Après, j'ai jamais aimé ce morceau, mais.
Avec Maxime, on adore.
Bah, évidemment.
D'ailleurs, Maxime, il avait un petit commentaire à faire. Il en a pas assez jeté à Queen. Je crois qu'il avait un petit truc à rajouter.
Non, mais en fait, à l'instant, j'ai été sur Topito pour trouver des arguments. J'en avais pas assez. Et en fait, mais il n'y avait pas cet argument-là. Mais en vrai, Queen, c'est un, toutes les chansons ont un côté hymne de foot. Voilà. Dire. Mais je crois qu'une année, c'est... ça a été un hymne de.
Bah, c'est We Are the Champions, c'est la grosse chanson de footballeur. Qui parle de quoi? Est-ce que vous savez de quoi cette chanson parle quand même?
De sexe anal.
Elle parle des homosexuels. Elle dit We Are the Champions, my friend. Et en fait, il parle des homosexuels. Donc,
et d'ailleurs,
tous
tu vois
les footballeurs
Queen,
qui chantent We Are the Champions, c'est assez ironique.
On est sûr de ça parce que là.
Sûr et certain, il me l'a dit.
Si je dis pas de bêtises, l'homosexualité de Freddie Mercury n'a été révélée que très peu de temps avant sa mort.
Il peut faire une chanson sans avoir fait son coming
out. Bien sûr. Mais
ah non, en tout cas, c'était ça le. Ce
qui et la force
qu'il a
de Queen
dans
face à Pink Floyd, c'est qu'après avoir passé du Pink Floyd, on reparle de Queen.
C'est ça qui est génial.
Et d'ailleurs, il y a un biopic qui va sortir et qui commence déjà à se faire bâcher rien qu'à la bande annonce.
Interprété par Rami Malek, ouais.
Exactement. Et du coup, ça commence à être un peu accusé de straight washing.
Et je pense que Queen, c'est un peu le seul groupe dont le chanteur est homosexuel et qui plaît autant aux homophobes, non?
Ah, ça
grave. Alors ça, oui, c'est vrai.
Ça bien. Bien vu, ouais.
Topito.
Mais comment ça du straight washing?
C'est-à-dire que dans le biopic, apparemment, ça va être un peu relégué au très 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 second plan, loin. Ah bon, il avait le sida. Ah bon, il s'est fait des hommes. Et du coup, c'est quand même un peu problématique parce que il y a pas tant de d'homosexuels qui sont si exposés et qui ont qui sont si iconiques. Et c'est dommage, genre pour une fois qu'il y a un biopic en plus.
Ça fait partie de.
Je croyais que le problème c'était de ne pas avoir pris un acteur homosexuel.
Homo, en fait.
Bah ouais, c'est clair.
Et les gens le revendiquent comme ça, quoi. Et donc il reste Michael.
Et donc non, Michael il a rien préparé. Du coup il reste moi. Alors du coup je veux bien qu'on mette l'extrait et puis on en discute après. Moi j'aime bien les petites surprises. Tu as l'extrait Michael ou?
J'avoue j'en ai bavé pas vous. Mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne
vous voulez
plaît. On va tous laisser plus longtemps.
Ben ouais.
Pas la Java.
En fait, c'est un peu. C'est alors un moi, j'ai visité entre deux personnes parce que du coup, la première personne c'était un peu plus le côté indé. C'est-à-dire que j'aime pas du tout Björk. Je reconnais son talent, je n'arrive pas. J'adorerais.
Plus
aimer
vous parlez,
Björk.
Plus je me rends compte que j'ai vraiment pas compris l'exercice.
J'adorerais aimer Björk, mais genre je ne supporte pas ses beats un peu mathématiques. Je supporte pas sa voix. Je supporte pas ses lignes de voix. Je supporte pas son instrument de son. Je ne supporte rien chez elle. Et j'aimerais trop aimer. Parce que j'aime trop le personnage et tout, mais bon, voilà.
T'es en train d'en faire deux pour le prix d'un, en fait.
Tu m'as brisé le cœur.
Comme on a un peu de temps, mais c'est pour ça que je passe à la fin.
Tu m'as brisé le cœur, je pars sur Radio Pro.
Comment tu crois que je suis devenu directeur d'antenne?
Allez.
Tu crois que c'est en passant en premier? Bah non.
Tu crois que c'est en écoutant Queen?
Bah non. Et donc, Serge Gainsbourg, pareil, je reconnais le talent, enfin vraiment, on ne peut pas contester le talent d'écriture et de composition de Serge Gainsbourg, mais l'entendre chanter. Tu contestes?
Non, c'était une blague.
Mais l'entendre chanter, vraiment, c'est douloureux, quoi.
Ouais.
Et c'est même triste un peu, il y a un truc un peu. Pff, c'est glauque, mec.
Non, mais lui,
je suis un peu d'accord avec toi, alors que j'adore, disait... mais le côté un peu glauque, pardon Thomas, le côté un peu glauque, tu me fais de la peine, voire tu me fais pitié. C'est...
Est-ce que t'es pas en train de lui rendre le plus bel hommage du monde
ouais,
à savoir
il
que
serait
c'est
tellement
un...
content.
Bah, en fait, ce que t'es en train d'en dire là, j'ai l'impression que c'est plutôt beau et c'est plutôt en sa faveur, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui prenait juste son talent artistique et de composition et qui savait très bien qu'il avait une voix de merde. Donc dans ce que tu dis.
Non, mais ce que je dis, c'est
pas une voix de merde, mais en tout cas, une voix. Peut-être même désagréable.
Il n'était pas chanteur hein, selon son.
C'est ça.
Mais dans ce cas, il aurait pas dû le faire, quoi. Enfin,
mais il y a un moment, les pépettes, la gloire, les pépettes.
C'était parfait quand il le faisait pour les autres. Pour lui, bon, bah, ça n'empêche pas qu'il a des très bonnes chansons pour lui. Mais du coup, interprété par lui, il y a un truc qui a une saveur un peu triste.
C'est justement ça qui est fascinant.
C'est peut-être sûrement ça que les gens aiment quand ils écoutent Gainsbourg.
Ouais. Mais après, moi je ressens pas de plaisir et du coup je ressens pas d'émotion en fait dans sa voix.
Ah d'accord.
En fait je ressens toujours.
Est-ce que ça t'énerve ou ça te laisse indifférent?
Un peu des deux. Mais en fait c'est ça, c'est que je ressens pas d'émotion parce que je trouve que c'est toujours un peu le même ton, c'est-à-dire il a toujours ce truc un peu. Du coup en fait ça m'émeut pas parce qu'à chaque fois il a un peu des sanglots dans la voix, du coup tu te sens ému mais c'est les mêmes à chaque fois. C'est juste et puis à la fin tu comprends qu'en fait c'est pas vraiment des sanglots, qu'il y a pas
c'est
vraiment
un
d'émotion.
En
ouais,
en
c'est
direct.
Clair. Et du coup c'est ça qui me touche pas trop. Voilà, je sais pas trop ce que j'ai
d'autre à dire. Mais pour tout dire Christophe, je pense que tu es un peu précurseur parce que t'es pas la première personne que j'entends tracher, enfin me dire ce qu'elle ressent sur Serge Gainsbourg, et je pense que justement il y a une génération qui a un peu trop qui l'a un peu trop on va dire porté au nu, idolâtré, et je pense qu'il y a de nouvelles générations qui vont arriver et qui vont dire calmez-vous les gars, et notamment autour du personnage. Mais
c'est ça, surtout qu'à une époque comme ça, genre Serge Gainsbourg il aurait juste pas pu exister. Genre, franchement, moi en plus à chaque fois que je l'entends, je revois son interview avec Whitney Houston
ou Whitney Houston aussi.
Y a, c'est tellement, le personnage il est tellement choquant.
Mais Thelma et Louise en parlait d'ailleurs dans une émission, que en fait on dit toujours que le rap c'est le genre de musique sexiste, mais qu'en fait qu'est-ce qu'il disait, Leonard Cohen et pareil, Gainsbourg c'était des gros putains de sexistes,
mais ils le faisaient pas dans leurs chansons.
Ah bah si. Ah bah
Love
on the Beat, excuse-moi, mais on n'est pas sur
Leonard Cohen. Écoute le premier album, genre One of Us Can Be Wrong, c'est atroce ce qu'il dit sur la femme, genre c'est atroce, quoi.
Et tout le mal que ça me fait, parce que pour le coup c'est un artiste que j'adore, mais en effet, enfin Bob Dylan aussi a sorti des trucs sur les femmes qui sont quand même ultra limites. Les Guns N' Roses, ils ont bâti une discographie
alors que
Job Bez
l'a fait découvrir, c'est ça qui est un peu
mais on est en train de écouter le replay de Thelma et Louise où ils ont invité
Héloïse
Bouton de Madame Rap. C'est vachement bien.
Ça donne vachement envie.
Ils n'étaient pas misogynes.
Donc on déteste autour de cette table respectivement Queen, Pink Floyd, les Strokes, David Bowie, Serge Gainsbourg.
Ça fait mal.
J'ai pas eu le temps. Bah tu perds un peu en superbe, quoi.
T'aurais choisi quoi avec le bon
maintenant
annoncé.
Que t'as compris.
Maintenant que j'ai compris.
Rattrapage de Stéphane.
Bah, je pense les Rolling Stones du coup.
Les Rolling Stones faut pas avoir honte de détester.
Faut pas lancer Jacques dessus parce qu'il est 22h28, on a pas le temps.
Ça fait pas un peu les Rolling Stones quand on dit qu'on déteste,
c'est quand même un petit peu.
Si je comprends que ça fasse un peu un. C'est un truc iconique et culte quoi.
Oui, ils ont quand même
incroyablement mauvais. Il y a trois bons morceaux.
Il y a plein de trucs qui sont incroyablement mauvais.
Christophe, si je me souviens bien, dans l'article d'annonce, tu avais posé deux questions. Quand Green Day va-t-il sortir un nouvel album?
Ah ouais,
The Long Shot.
L'année prochaine, on m'a dit.
Ah d'accord. Ouais. Et Lil Peep est-il vraiment mort?
Oui. Lil Peep, est-ce qu'il n'est pas avec Marilyn Monroe et Elvis Presley?
Et Michael Jackson.
Si. Mais sauf que lui, il continue à sortir de la musique.
Et ouais.
Maxime?
Et est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui n'aime pas Serge Gainsbourg? Je ne pense pas.
Je pense qu'il va y en avoir une. Je pense vraiment que Serge Gainsbourg va devenir beaucoup moins glorieux que ce qu'il est aujourd'hui.
Non mais peut-être pas la personne, mais ses disques, notamment ses premiers, sont extraordinaires. Donc,
tant de questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse. mais du coup, on va se quitter tranquillement, et surtout pour vous annoncer que donc vous l'avez sûrement entendu toute la journée à la radio, mais Radio Campus Paris fête ses 20 ans. On fait une grosse tournée juin, du 1er au 29 juin.
Wow.
Et on va être dans plein de lieux. On vous invite à aller sur le site radiocampusparis.org pour avoir toutes les infos, et notamment avec donc le pôle musique, toute cette petite team et plein d'autres. On va faire une émission spécial 98-2018, parce qu'en 98 il y a eu plein de tubes genre Yaka Lelo, donc on est obligé d'en parler,
genre Hit Me Baby One More Time
par exemple. On vous aime fort, gros bisous, si vous êtes sur la route, faites attention, et à très bientôt.